Bonjour cher Emmanuel, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée, de leur pensée ou des auteurs qui leur sont chers. À 10h46, Géraldine Mosna-Savoie vous proposera comme tous les vendredis en période électorale son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Mais avant cela, c'est en compagnie de Nietzsche que je vous propose de passer les 45 prochaines minutes. Nietzsche vu par ses lecteurs contemporains, ceux qui le lisent quotidiennement et transmettent, quand l'occasion leur est donnée, le goût pour la pensée musicale du philosophe. Et quelle musique!
Nietzsche se méfie des mots. Il les prend avec des pincettes, non seulement pour les ausculter, mais surtout pour ne pas s'y salir les mains. Les mots sont impropres. Ils collent parce que le langage est une vaste toile d'araignée destinée à prendre le monde dans ses fils. Ils sentent la poussière parce qu'ils sont chargés d'antiques conventions et de mensonges ancestraux. Ils sont souillés par trop de mains qui les laissent circuler comme des pièces à l'effigie effacée et propice à tous les faux monnayages, faute de jamais en soupeser à nouveau le métal. Les mots ne désignent jamais les choses, mais nos relations aux choses, nos tentatives de saisir des choses insaisissables. Nous avons oublié que chaque nom commun fut un jour une nomination singulière, surgie d'une imagination débordante, créatrice et illusionniste.
Bonjour Dorian Astor.
Bonjour Adèle.
Pas facile de prendre la parole sur le prélude de Tristan et Isolde Wagner. Hein?
C'est très difficile.
Et c'est parce qu'il s'agit à la fois d'entendre sa musique et de pouvoir en parler. Et c'est exactement pareil avec Nietzsche. Quand on essaye d'en parler, c'est difficile de respecter sa musique, la musique propre à ses textes. Et c'est ce défi que vous relevez en travaillant, en écrivant sur Nietzsche, dans votre propre travail, et que vous avez renouvelé avec ce dictionnaire Nietzsche, qui est paru aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins, sous votre direction, et qui rassemble des dizaines et des dizaines et des dizaines de contributions et de contributeurs par différentes entrées. Et ça peut paraître paradoxal, parce que cette musique Nietzsche, comment est-ce qu'on la restitue à travers un dictionnaire qui, par essence, fragmente, compartimente la pensée? Pourquoi c'est la forme qui vous a paru la plus appropriée?
Justement parce que cette fragmentation dont vous parlez oblige à faire de ces fragments des facettes. Et au fond, l'avantage d'un dictionnaire, c'est que l'ordre n'y est qu'alphabétique, mais qu'en réalité, on peut commencer par n'importe où, par le milieu, en fonction des besoins, de la curiosité, ou simplement en ouvrant une page au hasard. Et il appartient aussi à chaque contributeur, à chaque entrée, de renvoyer à d'autres entrées. Ce qui fait que, peu à peu, si on se laissait guider, on lirait peut-être l'ensemble et peut-être même plusieurs fois. Ce qui est important dans cette idée, on parle souvent du perspectivisme de Nietzsche, en tout cas trouver le point de vue, changer surtout le point de vue et entrer dans un problème, dans une question à partir d'un nom commun ou propre, d'une figure, d'un lieu, d'un concept, d'une idée. Et se laisser porter et construire peu à peu, avec le plus de nuances et de précisions possibles dans la lecture, vers cet édifice interminée et interminable de l'œuvre de Nietzsche.
C'est l'avantage d'un dictionnaire collectif, c'est qu'il y a autant d'entrées que d'auteurs quasiment, même si évidemment il y a certains auteurs qui ont écrit plusieurs entrées, mais que le dictionnaire ne propose pas une interprétation, une définition des concepts nietzschéens, mais une multiplicité.
Absolument. Une multiplicité, c'est à la fois l'objet et la méthode, au fond, hein, de notre approche. Il y a évidemment la singularité de chaque contributeur, il y a la singularité de chaque entrée, tout en obligeant tout le temps à suivre des chemins très proches les uns des autres. Lorsqu'il y a une entrée pulsion et une entrée volonté de puissance, on voit bien que ça se croise, et on voit bien que ça a été tout l'art des contributeurs d'insister, je dirais, sur un certain nombre de points qu'en réalité on retrouve toujours. Il y a des lignes fondamentales chez Nietzsche qui ne bougent pas, ou en tout cas qui sont des sillons qu'il creuse, sans jamais se répéter ou en répétant juste ce qu'il faut pour charger une notion ou un concept de sa signification, d'une partie de ses significations possibles.
On va se promener ensemble donc dans ce dictionnaire, puisqu'on promenade il y a, hein, comme vous l'avez dit, on choisit les entrées, la trajectoire qu'on veut en fonction des thèmes et des affinités qu'on a avec chacun des concepts. Avant cela, juste une question. Il existait déjà un dictionnaire Nietzsche, oui, par Patrick Wöttling et Céline Donat, qu'on trouve dans votre dictionnaire aussi, aux éditions Ellipse. Quel besoin d'un second dictionnaire Nietzsche ?
Le dictionnaire de Patrick Wöttling et Céline Denat chez Ellipse, je crois que c'était en 2013 de mémoire, est un ouvrage de référence que j'estime beaucoup et qui traite d'une cinquantaine de concepts traités de manière synthétique et extrêmement brillante, comme toujours, hein, avec Patrick Wöttling et Céline Denat. Mon projet pour ce dictionnaire Nietzsche était, d'abord en termes de taille, de proposer un nombre plutôt foisonnant d'entrées. On a plus de 400 entrées. Et ça n'est pas, ça n'est pas un lexique conceptuel. C'est un véritable dictionnaire où on trouve non seulement des concepts, des notions, des idées, mais aussi des personnes, des personnages historiques, des figures historiques ou philosophiques ou artistiques qui ont influencé Nietzsche, certaines figures importantes de la réception de Nietzsche, comme Heidegger, Foucault, Deleuze, la question du nazisme à propos de réception, etc. Et aussi des lieux, ce à quoi je tenais beaucoup, de même qu'il y a chez Nietzsche des personnages conceptuels, je crois qu'il y a des lieux conceptuels chez Nietzsche, Turin, Venise, Nice, Tribschen, que sais-je, voilà. Donc il y a une prolifération. Imaginez bien que cette liste de 400 entrées est déjà peut-être réduite de moitié par rapport à mon vœu initial. Ça n'arrête jamais. Je dois préciser que certains des contributeurs ont proposé des entrées auxquelles je n'avais pas pensé.
Parmi les 30 contributeurs, il y en a aussi des qui ne sont pas français.
Absolument, ça, pour moi, c'était absolument essentiel. Nous en avons parlé très tôt avec les éditions Lafon qui ont accepté l'enjeu. La question était aussi concrète, c'est-à-dire qu'il fallait traduire aussi. Hein. Laurent Cantagrel a très bien traduit des trois langues, anglais, allemand et italien, et nous avons à peu près un bon tiers des contributions qui viennent de contributeurs étrangers de plus d'une dizaine de pays, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Portugal, Espagne, Brésil, etc., etc., et où l'on voit, moi c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, on voit à la fois les singularités des traditions nationales dans les recherches nietzschéennes, et en même temps une espèce de communauté transnationale qui est une idée au fond très nietzschéenne de manière de penser et de lire où malgré les différences nationales on se retrouve vraiment dans un langage commun.
On va entrer dans ce dictionnaire en jouant, je vous propose, parce que déjà en vous écoutant, on prend conscience de la dimension esthétique d'un dictionnaire, c'est pas celle à laquelle on pense en premier, on dit que c'est un outil bien habile, mais c'est aussi comme un portrait que l'on brosse d'un philosophe qui nous est cher, et en cela c'est très réussi. Pour ne pas, disons de manière scolaire, voir une entrée après une autre, on a choisi avec Géraldine Mosna-Savoie certaines entrées du dictionnaire qu'on a écrites sur un bout de papier et mis dans ce chapeau. Dorian Astor. Donc je vous propose d'abord d'entendre la musique nietzschéenne composée par Nietzsche qui va nous mettre dans l'ambiance de la prose de Nietzsche et ensuite de tirer un papier au hasard et puis de nous dire ce que ce terme vous inspire et ce à quoi il renvoie dans le dictionnaire.
Très bien.
Vous êtes prêts à jouer ?
D'accord.
Alors, voici le chapeau d'Orian Astor. Vous tirez un papier. Alors ?
Je me retrouve avec cruauté.
Ah.
C'est, voilà.
On commence dur.
Pour commencer, oui.
C'est un article rédigé par Myriam Korichi.
Oui, en effet.
Cruauté, donc ça montre aussi que là, vous fonctionnez aussi par passion. C'est un portrait de Nietzsche, pas simplement par grand concept métaphysique. Quoique, chez Nietzsche, la cruauté renvoie à autre chose qu'à une dimension psychologique.
Absolument. C'est la cruauté est pour Nietzsche un instinct ou une pulsion fondamentale de la vie qui nous renverrait directement à la notion centrale et majeure de volonté de puissance. En tout cas, ce qui est important dans l'idée de cruauté, c'est que elle libère les rapports de force, la conflictualité qui est extrêmement importante chez Nietzsche, à la fois dans la vie pulsionnelle et dans la vie de la culture, dans l'évolution de la culture. La cruauté libère des conceptions traditionnelles de la justice par dommage et compensation. Ce qui importe toujours à Nietzsche, c'est l'excès sur la compensation, c'est-à-dire qu'on subit un dommage, on veut se rétribuer de ce dommage en infligeant soi-même un dommage, et en fait, il n'y a jamais de compensation, ça déborde toujours. Voilà. Et la cruauté, c'est ce plaisir de faire souffrir. Alors, chez Nietzsche, il y a toutes les nuances. Ça peut être une cruauté comme la cruauté animale, comme la cruauté barbare, etc. Mais Nietzsche dit dans de très beaux textes d'Aurore, par exemple, que imposer son visage à un inconnu dans la rue, c'est déjà un geste de cruauté. C'est-à-dire que de toute façon, notre rapport au monde est toujours un rapport d'effraction. On pénètre toujours dans une sphère étrangère. On s'approprie toujours, on conquiert toujours, ne serait-ce que dans les rapports de perception. On déborde toujours sur sa sphère propre. Mmh. Ce qui fait que la cruauté a toujours à voir avec la surabondance des décharges de puissance, de force. Et de ce point de vue-là, cette version pulsionnelle-là est par-delà ou en deçà du bien et du mal. La question morale vient ensuite se placer autour de cette économie pulsionnelle. Et Myriam Korichi travaille justement sur la différence entre l'activité pulsionnelle en tant que telle, dont on ne peut pas encore juger d'un point de vue moral, et ce que ça signifie dans l'histoire de la culture et dans les différents types de culture.
C'est pas facile l'exercice que je vous demande de faire, parce que je vous demande de répondre au nom de tous les contributeurs, oui, comme si ça. Vous connaissiez par cœur le dictionnaire. Alors rassurez-vous, regardez dans le chapeau qui est devant vous. Certains papiers sont d'une autre couleur et cela renvoie à des entrées qui sont, disons, sans doute incontournables et sur lesquelles j'aimerais bien vous entendre. Alors je vous invite à tirer l'un d'entre eux.
Père, le père.
Le père de Nietzsche,
le
notamment.
Père de Nietzsche.
Et on trouve une entrée autobiographique également. Et le père joue un rôle très important dans la pensée même de Nietzsche, et à la fois de manière symbolique et de manière autobiographique. C'est comme
oui.
ça qu'on peut le dire.
Voilà, c'est-à-dire que il nous importait évidemment de non seulement de donner un certain nombre d'informations, y compris biographiques, sur Nietzsche et sa vie, mais aussi de de faire voir les articulations profondes entre, enfin, ce qu'on appelait à l'époque la vie et l'œuvre de quelqu'un. Je crois que cette articulation est chez Nietzsche particulièrement forte. Il se trouve que le père de Nietzsche nous aide à comprendre un certain nombre de traits à la fois psychologiques et philosophiques de Nietzsche.
Je vous propose, oui. ça peut pour vous permettre de continuer mm-hmm. ce que vous avez à dire, d'entendre un texte d'Ecce Homo où Nietzsche, dans « Pourquoi je suis sage », parle du rapport à son père et à sa mère.
« La chance de mon existence, voir ce qu'elle a d'unique, tient à sa destinée. Pour l'exprimer sous forme d'énigme, je suis déjà mort en la personne de mon père. Dans celle de ma mère, je vis encore et je vieillis. » Cette double origine, en quelque sorte au premier et au dernier barreau de l'échelle de la vie, à la fois décadent et commencement, voilà qui, mieux que tout, explique cette neutralité, cette absence de parti pris à l'égard du problème de la vie dans son ensemble qui me caractérise peut-être. Je possède, pour les signes de montée et de déclin, un flair plus sensible que quiconque ait jamais eu. Je suis là-dessus le maître par excellence. Je connais les deux. Je suis les deux. Mon père est mort à 36 ans. Il était frêle, gentil et morbide. Comme un être d'emblée destiné à passer. Plus un aimable souvenir de la vie que la vie même. À l'âge même où sa vie déclina, la mienne déclina aussi. C'est dans ma 36e année que j'ai atteint l'étiage de ma vitalité. Je vivais encore, mais sans toutefois y voir à trois pas devant moi.
C'est difficile de savoir comment lire un texte de Nietzsche, Dorian Astor, parce qu'à chaque fois, on ne sait pas si... Là, il parle à la fois de sa vie, mais on ne sait pas si c'est symbolique, s'il parle de sa philosophie, d'un rapport plus pulsionnel, voire intuitif à sa propre vie. Il y a tellement de lectures possibles à partir d'un seul texte. C'est-à-dire peut-être l'intérêt de ce dictionnaire et de la multiplicité des contributeurs, mais on ne se résout jamais à une lecture unique et définitive.
Tant mieux, oui. Et c'est, le dictionnaire tente de faire ça modestement et à sa manière. Mais ce que vous décrivez, c'est exactement le type de fonctionnement de l'écriture de Nietzsche elle-même. Évidemment, jamais une lecture unique. Nietzsche déjoue, ne cesse de déjouer, tout en tendant des pièges, mais de déjouer les lectures univoque ou binaire. Le fait est que, et alors Ecce Homo, dont on vient d'entendre un extrait, est particulièrement représentatif de ça, c'est-à-dire qu'il entreprend, comme il dit, de dire qui il est. C'est une œuvre rétrospective qu'il écrit à la dernière année de sa vie, dans la dernière année de sa vie consciente en 88. Et il revient sur l'ensemble de sa vie, de ses œuvres. Et on voit que non seulement il y a une réinterprétation, de sa propre vie, de son propre parcours. Il y a donc une espèce de mise en scène, mais aussi de mise en concept. Et on voit dans le cas des parents de Nietzsche, on voit très bien comment Nietzsche a peu à peu intégré, apprivoisé la perte très précoce de son père. Il perd son père alors qu'il a 5 ans. Et de très nombreux textes attestent le traumatisme que cette perte a été, d'autant que Nietzsche a ensuite grandi dans un milieu exclusivement féminin, sa mère, sa sœur, ses tantes, qui n'étaient pas, de son propre aveu, de la première intelligence, mais qui avaient une santé instinctive. Et au fond, on voit Nietzsche articuler la figure paternelle et maternelle d'un côté... une fragilité, une faiblesse de la décadence qui n'est pas chez Nietzsche une insulte mais une qualité au fond de la vie, une qualité de la volonté de puissance, et chez la mère une espèce de santé. Et Nietzsche dit qu'il était à la fois une fin et un commencement, et il y a cette pour Nietzsche chez son père cette dimension morbide. Mon père était davantage un ange qu'un homme, dit-il à un moment. Et c'est intéressant parce que le père de Nietzsche était pasteur à Röcken, en Thuringe, et que lorsqu'on se penche un peu sur son existence, on voit que d'abord c'était un royaliste conservateur qui avait une fidélité, il était conservateur voire réactionnaire, il avait une fidélité prussienne très importante, il faisait partie des mouvements qu'on appelait du réveil, c'est-à-dire de re-christianisation de l'Europe, de l'Allemagne d'abord, ce qu'ils appelaient à l'époque les protestants les premiers urkatholisch, c'est-à-dire catholicisme originaire. Et on voit par exemple très intéressant, le père de Nietzsche, absolument affolé et désespéré des mouvements révolutionnaires de 1848. Et on voit comment Nietzsche gardera une certaine crainte des mouvements révolutionnaires et populaires. Par exemple, il reçoit de manière très inquiète et très négative la Commune de Paris. Un certain attachement à ce roi de Prusse qui portait le même prénom que lui, Friedrich Wilhelm, et en même temps, peu à peu, la nécessité de s'arracher à cette culture politique et théologique-là, à s'arracher à son statut de fils de pasteur, pour engager un travail contre le christianisme, contre l'Allemagne, contre le vieux monde, d'une certaine manière.
Je renvoie à l'article sur Karl Ludwig Nietzsche, donc le père de Nietzsche, que vous avez rédigé dans ce dictionnaire, donc d'Henri Nestor. Mm-hmm. On continue notre lecture, vous piochez une autre entrée.
Oula, nazisme.
Eh bien, on rentre dans le vif du sujet.
De mémoire, c'est un très bel article de Fabrice de Salis.
C'est ça, et très beau et nécessaire, parce que de plus en plus, je ne sais pas ce qu'il en était dans les décennies précédentes, mais on brandit, de même qu'on brandit l'antisémitisme de Heidegger, on fait un analgame géant en disant « Oui, mais Nietzsche, bah, lui, on l'a été récupéré par le nazisme. » Alors, qu'en est-il vraiment de ce rapport?
Alors, je pourrais pas refaire ici le travail de Fabrice de Salis, mais justement, ce qui m'intéresse dans son travail, c'est que, au lieu de... je pense que le grand danger, lorsqu'on aborde cette question, c'est d'essayer de trouver les éléments pro et contra qui, dans les textes de Nietzsche, nous permettent d'alléguer l'une ou l'autre position. Il y a ce texte cet ouvrage de Losurdo sur Nietzsche réactionnaire où il met à la suite toutes les citations dont on se dit à première lecture qu'elles auraient pu sortir de la plume d'un nazi, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai.
Et puis c'est complètement anachronique pour le coup, de toute façon, donc ça n'a aucun sens.
C'est complètement anachronique, et par ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la question des facettes. C'est-à-dire que lorsque Nietzsche parle de dégénérescence, de faiblesse, d'élimination, de dressage, tous ces concepts extrêmement délicats, eh bien, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ce qui ne veut pas dire que Nietzsche ne soit pas dépendant d'un certain biologisme du 19e siècle de pensée eugéniste, physiologiste, etc. Mais cela ne suffit pas. La question donc n'est pas, et ça a été l'objet de l'article de Fabrice de Salis, la question n'est donc pas de prouver « Ah bah oui, on comprend pourquoi Nietzsche a inspiré les nazis » ou « Ah non, c'était impossible, c'est un affreux malentendu ». Bien sûr, c'est un malentendu. Mais ce que fait Fabrice de Salis, c'est de voir comment a évolué la réputation et le succès de Nietzsche, déjà de son vivant, comment un culte Nietzsche s'est installé en Allemagne au début du siècle, pendant la guerre, dans l'entre-deux-guerres, avec un très grand traumatisme de l'Allemagne, le développement du pan-germanisme, etc. Et comment le langage héroïque, le langage de la puissance, de la santé, de l'accroissement, de la recherche d'un auto-dépassement de l'homme, comment toutes ces formules, en réalité, si elles ne sont pas travaillées philosophiquement, ont été reprises comme autant de slogans. Ce culte de Nietzsche a démarré très très tôt. L'Allemagne, pour un grand nombre de raisons, à développer tout ce fantasme de l'héroïsme, du sang, de la terre, etc. Et donc est allé piocher des slogans. Il faut dire, il faut souligner quelque chose, et ce que dit l'article, c'est que une minorité d'idéologues nazis ont eu quand même de grandes difficultés avec des pans entiers et nombreux de l'œuvre de Nietzsche qui étaient absolument tout le contraire de l'idéologie nazie, c'est-à-dire philosémite, antinationaliste, héroïsme guerrier. Voilà, Nietzsche.
Mais c'est vrai qu'on trouve autant de textes qui disent l'inverse quasiment.
Oui, sauf que...
Ils font l'apologie du plus fort sur le plus faible.
Il faut lire les textes dans leur économie. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, Nietzsche annonce des guerres telles qu'il n'en a jamais eu, vous lisez quelques lignes plus tard, il parle de guerre de l'esprit. Ce sont des valeurs qui doivent s'imposer contre d'autres valeurs. Et si on faisait le... Mais là, je reviens à la défense de Nietzsche, ce qui ne serait pas mon propos, mais si on revient aux valeurs qui... porte et fonde l'idéologie nazie, elle serait pied à pied l'inverse de celle que développe Nietzsche. En tout cas, ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est la dimension historique plus qu'idéologique. C'est-à-dire que Fabrice Stalice voit vraiment comment le nom de Nietzsche, des slogans autour de Nietzsche, un certain nombre de milieux, à la fois populaires et d'élite sociale et intellectuelle, ont instrumentalisé textes et figures de Nietzsche à un moment où cette Allemagne-là se développait dans ce sens.
On va continuer cette lecture du dictionnaire musique de Nietzsche, déjà interprétée ici par Fischer Disco, et puis vous allez tirer une nouvelle entrée dans le chapeau d'Ariane Astor.
Der Tag war rau, kalt weht es und stürmisch aus Norden. Es trieft mein Haar von Abendtau, fast wär ich müde geworden. Das Blinken in Roten, in süßen Wein, es mag der alte Fechter sich gerne sonnen im roten Schein, sich gerne wärmen an Fächer und gerne sich sonnen in trüber Stund. Am klaren Blick deiner Augen und gerne vom roten, vom süßen Mund erwärmende Flammen saugen. Reichst mir den Mund, mir den Pokal, mir Jugendlos des Lebens, das tosende Tonen, die Stürme zu wahlen. Sie mühen um mich, sich vergehen.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, bienvenue sur les chemins du vendredi, où j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir le philosophe Dorian Astor pour son dictionnaire Nietzsche, qui est paru le mois dernier chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Dictionnaire dirigé par Dorian Astor, dans lequel on trouve plus de 400 entrées différentes, avec rédigé par plus de contributeurs différents, spécialistes de Nietzsche et d'une douzaine de pays. On vient d'entendre la composition de Nietzsche, Gern und Gerne, interprétée par Fischer Dieskau, et on continue notre lecture du dictionnaire avec la musique de Nietzsche dans l'oreille. Qu'est-ce qui est écrit sur le bout de papier que vous venez de tirer, Dorian Astor ?
Il est écrit « Aurore ».
Ah, ça c'est très beau, parce que c'est à la fois l'idée même de l'aurore, un jour qui s'éveille, et le titre d'un livre de Nietzsche.
Absolument, il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui. C'est cette phrase du Veda a été placée en exergue du livre Aurore. Nietzsche a choisi cette chose-là. Aurore, évidemment.
Je précise juste que l'entrée Aurore est rédigée par Keith Ansel Pearson.
Oui, un grand Nietzschéen britannique qui a travaillé aussi sur la question de transhumanisme, de post-humanisme. C'est un grand monsieur. J'étais très fier qu'il soit parmi les contributeurs. Évidemment, il y a d'un côté Aurore et de l'autre côté Crépuscule des idoles. Voilà, je crois que ça encadre bien la démarche de Nietzsche qui, chaque fois qu'il, et il l'a beaucoup fait, chaque fois qu'il traite de cette question de la décadence, a toujours à l'esprit et de plus en plus cette philosophie de l'avenir, ces aurores qui n'ont pas encore lui, c'est-à-dire un horizon de création de nouvelles valeurs et qui sont évidemment extrêmement importantes et stimulantes pour la pensée et pour la vie. Alors sur Aurore, je suis content de tomber là-dessus, à vrai dire, parce que c'est un ouvrage qui est un peu mal aimé.
Quand vient ce livre, Aurore ?
Alors, il arrive en 1880, publié, je crois, en 81. Oui, je crois que c'est ça. Le pauvre est mal placé, puisqu'il est entre Humain, trop humain 2, c'est-à-dire Opinion et sentence mêlées, plus Le voyageur et son ombre. Et il vient avant Le gai savoir, qui est quand même un des textes les plus solaires de Nietzsche. Et en fait, Aurore est un moment extrêmement important, parce Nietzsche est encore dans cette période que l'on appelle un peu abusivement, ou un peu rapidement, la période Aufklärung, la période des Lumières, la période rationaliste de Nietzsche. Et en même temps, on voit arriver, c'est ce qui, moi, me fascine vraiment dans cet ouvrage, on voit arriver la notion de volonté de puissance. Il n'utilise pas encore le terme, il utilise les termes sentiment de puissance, plaisir pris à la puissance, etc. Mais on voit que s'affirme cette approche et cette vision pulsionnelle de toute la réalité. Et c'est très intéressant parce que tout le début d'Aurore commence là aussi un travail de type généalogique, tel qu'on le retrouvera dans la généalogie de la morale. Aurore commence ce travail sur l'origine de la justice, l'origine de la morale, l'origine du châtiment, l'origine des religions. Et peu à peu, on voit se développer cette école du soupçon dont parlait déjà Humain, trop humain, le fait que derrière toutes ces formations de la culture, eh bien, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, hein, qui est obscur, qui est sombre, hein, qui est caché, qui est le plaisir pris au sentiment de sa propre puissance.
On trouve dans l'article une anecdote, en tout cas une donnée qui semble importante, que le 10 avril est-il écrit, Nietzsche déclare à Gast qu'il a changé le titre en supprimant l'article « Aurore » et non plus « Une aurore ». En justification, il ajoute qu'un titre doit avant tout pouvoir être cité et qu'il y avait quelque chose de précieux dans le « une » du titre. Mais finalement, il choisit juste « Aurore » pour plusieurs raisons. Notamment, on y entend plus l'attente d'un nouveau commencement, la première lumière du jour ou de l'aube, l'apparition naissante de quelque chose, une nouvelle réalité qui commence à devenir évidente et comprise, et ainsi de suite. Et finalement, on insiste sur la couleur rouge qui était importante pour Nietzsche. On voit ici comment le choix du titre, c'est comme le titre d'un poème ici. Hein.
Oui, absolument. Il faut préciser que Aurore en allemand, c'est Morgenröt, c'est-à-dire le rouge du matin, le rougeoiement du matin. Donc Nietzsche travaille de manière, quand on voit les très très nombreux carnets de notes de travail, ce qu'on appelle donc les fragments posthumes, on voit très bien que non seulement les contenus sont très travaillés, retravaillés, Nietzsche cherche, écrit beaucoup de citations, etc. Il y a un très bel article de Giuliano Campioni, de mémoire, sur les fragments posthumes, leur organisation, mais aussi le contenu, ce que ça dit du travail de Nietzsche. Et on voit bien autour d'Aurore que Nietzsche travaille très longuement au titre, à l'ordre des aphorismes, aux citations en exergue, etc. L'un des projets précédents c'était le soc, hein, le soc de la charrue qui creuse un sillon. Et le début d'Aurore est très très beau puisque au fond il annonce son texte comme étant le fruit d'un retour des souterrains, un retour des profondeurs. Le philosophe est celui qui d'abord creuse des souterrains, va chercher dans les veines même de la terre et des fondements de la morale et de la philosophie, avant de revenir au jour et de nous présenter les fruits de ce travail très solitaire et très très obscur en réalité.
Il est temps de piocher un autre mot, peut-être le dernier, Dorian Assor, je ne sais pas, ça dépendra de ce que vous avez à en dire, allez-y.
Christophe Colomb.
Eh bien justement, il y avait une référence à Christophe Colomb dans l'article « Aurore » dont nous venons de parler. L'auteur, un qui s'en seule personne, citait Christophe Colomb comme métaphore. Est-ce une métaphore pour Nietzsche, Christophe Colomb ?
Christophe Colomb, c'est une figure, ou comme on disait tout à l'heure, un personnage conceptuel.
L'article de Paolo Diorio.
Voilà, de Paolo Diorio, dont je signale qu'il écrit, par ailleurs, peut-être on avait vous parlé ici, un très beau livre qui s'appelle Le Voyage à Sorrente, qui est vraiment le moment de l'affranchissement de Nietzsche, la naissance de l'esprit libre, etc. Christophe Colomb, quant à lui, est rattaché à Gênes, puisqu'il a embarqué à Gênes pour retrouver les Indes, et il a trouvé l'Amérique. Ce qui intéresse beaucoup Nietzsche dans la figure de Christophe Colomb, c'est que les explorateurs, outre qu'ils se mettent évidemment en danger, outre que, comme Nietzsche le dit dans le Gai Savoir, je crois, on risque toujours d'échouer devant l'infini. On part, mais on ne sait pas. Voilà, on suit l'horizon. On cherche des terres inconnues. Et surtout, et ça c'est très intéressant, y compris d'un point de vue méthodologique, on s'embarque pour trouver quelque chose et on trouve autre chose. Et la figure du navigateur, de l'explorateur, la figure de Christophe Colomb est pour Nietzsche vraiment une métaphore du philosophe et du philosophe tel que Nietzsche le réclame, c'est-à-dire un philosophe aussi qui quitte la terre ferme, qui quitte les fondements de la métaphysique, de la morale, pour s'embarquer sur l'océan qui est chez Nietzsche très souvent l'image précisément des perspectives infinies, du devenir absolu.
Il écrit dans une lettre du 24 mars 1880 à son vieil ami Erwin Rode: il y a déjà maintenant des moments où je me promène sur les hauteurs surplombant Gênes avec des regards et des sensations telles que peut-être le défunt Colomb les a un jour envoyés depuis le même endroit vers la mer et vers tout l'avenir.
Voilà.
Il y a une connexion là entre lui et Colomb.
Absolument.
C'est plus qu'une métaphore.
Oui, absolument. Comme vous le dites, d'ailleurs, généralement les métaphores nietzschéennes sont des connexions, surtout lorsqu'il s'agit de ces personnages-là historiques dont Nietzsche très tôt, dès la seconde inactuelle, a le pressentiment que d'époque en époque il y a une grandeur des créateurs, des artistes, des législateurs ou des explorateurs d'exception qui sont comme les sommets d'une époque, et qu'il y a quelque chose qui, de manière très inactuelle au fond, relie ces personnalités exceptionnelles d'une époque à l'autre. Donc Nietzsche, se sent un type de connexion par-delà les siècles avec un personnage comme Christophe Colomb, absolument.
Paolo Diorio cite l'aphorisme 289 du Gai Savoir, où Nietzsche écrit ceci: si l'on considère quel effet la justification philosophique globale de sa manière de vivre et de penser exerce sur chaque individu, à savoir celui d'un soleil qui réchauffe, bénit, féconde, on finit par s'écrier, transporté de désir: oh, si seulement on pouvait créer une foule de nouveaux soleils de ce genre. Le méchant aussi, le malheureux aussi, l'homme d'exception aussi doivent avoir leur philosophie, leur bon droit, leur soleil éclatant. La terre morale aussi est ronde. La terre morale aussi a ses antipodes. Les antipodes aussi ont droit à l'existence. Il reste encore un autre monde à découvrir. Et plus d'un. Au navire, philosophe. Là, c'est un appel qui s'adresse directement aux philosophes, mais à découvrir l'explorateur en eux. C'est-à-dire que là, c'est encore, vous avez beaucoup prononcé le terme, mais c'est ça, c'est encore une question de méthode. Voilà comment philosopher, ouais, en se positionnant en explorateur, c'est-à-dire en allant à la découverte de terres inexplorées. C'est quand même assez audacieux, voire même un peu fou de supposer qu'il y a une terre inexplorée, alors que c'est pas une transcendance chez Nietzsche, c'est pas l'idée, le monde des idées comme chez Platon. C'est cette terre inexplorée, qu'est-ce que c'est?
Absolument, il y a c'est une manière de répondre à votre question. Pour revenir à cette image des soleils multiples et des mille soleils, même dit je crois Zarathoustra à un moment, c'est une chose cette possibilité des mille soleils ou des mille centres font de la révolution copernicienne quelque chose d'en réalité de peu de poids. On trouve quelque chose de semblable, la multiplication des soleils, chez Pascal et chez Leibniz au XVIIe siècle. On se souvient de ce texte de Coiré, du monde clos à l'univers infini. C'est-à-dire qu'on voit par exemple chez Pascal combien l'impossibilité de trouver un centre, depuis que la Terre n'est plus, d'un point de vue à la fois métaphorique, scientifique, métaphorique, philosophique, depuis que la Terre n'est plus au centre, et que l'homme est excentré, hein, qui n'a plus son centre. On voit par exemple chez Pascal cette grande angoisse de l'homme qui n'est plus au centre. Et il faudra ce saut vers la foi que la philosophie ne peut franchir elle-même. Nietzsche est un Pascal sans Dieu, c'est-à-dire qui prend acte de l'infinité possible des mondes, ou de l'infinité possible des perspectives, ou de l'infinité possible. Cette idée de mille soleils, c'est vraiment une manière de dire que il faut accepter d'être, y compris dans l'ordre de la pensée, d'être mobile, de changer les points de vue, de changer les centres, de trouver les antipodes, et au fond de naviguer dans ce cosmos ou ce chaos, hein, ou pour reprendre un terme de Deleuze, j'aimerais dire dans ce chaosmos qui n'a ni ordre, hein, ni néant. C'est-à-dire que ce qui est effrayant, c'est la multiplication infinie pour l'ordre de la pensée des vérités possibles, des valeurs possibles, des expériences possibles, des mondes possibles, pour parodier Leibniz. Donc c'est une grande audace, mais c'est ce mouvement-là de multiplication infinie, hein, cette possibilité de multiplication infinie des sens, des interprétations, des perspectives, des mondes, c'est vraiment une manière d'affranchir radicalement la pensée de tous les dogmatismes, c'est-à-dire de tous les fondements non interrogés, en réalité crus, et qui structurent le monde avant même de laisser la possibilité à la pensée d'expérimenter les territoires qu'elle franchit.
Donc pour être vraiment nietzschéen, votre dictionnaire aurait dû ne pas respecter l'ordre alphabétique même.
Oui, ou alors il faudrait une version électronique pour que l'ordre alphabétique, le désordre alphabétique change tous les jours.
C'est ça, mais ça reproduit cette méthode-là, une multiplicité d'entrées et ce terme si important de perspective que vous employez aussi. On peut le lire comme ce dictionnaire est autant de perspectives différentes sur l'œuvre de Nietzsche.
Oui, pour employer une image qui est à la fois leibnizienne et deleuzienne, c'est une série. Et peut-être une série de séries à l'infini. C'est ainsi que Leibniz voyait le monde. Et disons que ce dictionnaire est une série qui, en lui-même, contient beaucoup d'autres séries possibles, à cause, comme je vous disais tout à l'heure, de ses renvois, et puis de ce que devient le parcours d'une série chez un lecteur, chez chaque lecteur, qui est lui-même une série infinie.
On aurait pu citer tant d'autres entrées, des Baudelaire, Baumgartner, Blanchot, Clément Rosset, Michel Onfray aussi, on trouve une entrée, Michel Onfray, Emerson, femme, finalisme, démocratie, Foucault, tout y est, me semble-t-il.
Je vous assure que, mais je ne dirai pas lesquels, il en manque, j'ai quelques regrets, mais voilà.
Bon, on peut faire une entrée, une nouvelle édition ajoutée, augmentée, comme on dit, de ce dictionnaire. En tout cas, il vient de sortir, ouais. Donc souhaitons-lui déjà, accueillons-le dans ce monde, souhaitons-lui la bienvenue.
Merci.
Et merci à vous d'être venu nous en parler, Dorian Astor. Je rappelle que, par ailleurs, non seulement vous êtes l'auteur de Nietzsche et la détresse du présent, qui était paru il y a 2 ans, me semble-t-il, chez Gallimard, mais aussi que vous avez écrit, vous connaissez bien la musique de Wagner, qu'aimait beaucoup Nietzsche. Alors je vous propose qu'on se quitte avec un extrait du Parsifal.
Volontiers. Und bangt es nicht nur der Tod.
Thank you.